Le mal est fait, c'est-à-dire que cette micro-propulsion que j'ai créée avec les jambes...
C'est incroyable.
Je vois mon rêve olympique partir en fumée.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est vraiment une explosion, on laisse partir le corps.
Oui, je crois que c'est Willem.
Ouais, c'est fini pour Willem, ouais.
Ah, il a tout de suite mis les mains sur la tête, eh oui.
Je me dis, j'espère que c'est pas moi, j'espère que c'est pas moi.
Le rêve qui s'écroule en moins d'une seconde.
Le temps se... en même temps se rétrécit et s'allonge.
Donc encore, il m'a trahi.
N'importe quel facteur externe peut perturber.
Faux départ.
Un son, une voix, du vent, une mouche, tout.
Un documentaire de Sophie Ducigne. Trop tôt, trop tard. Musique et mise en onde de Thomas Loupias.
On peut sentir cette pesanteur au moment du départ où vraiment... On demande au public de se taire. C'était lors des championnats d'Europe d'Amsterdam en 2016, juste avant les Jeux Olympiques de Rio. Et il s'avère que j'ai fait un faux départ, donc de 99 ou 98, je crois, mi-game. Voilà. Au moment du set, au moment du prêt, à partir du moment où quelqu'un bouge à côté de nous, que ce soit sur la droite ou sur la gauche, ou même deux couloirs à côté, trois couloirs à côté, il y a une sorte de vague qui fait bouger tout le monde, sans entendre le coup de feu. Donc, il y a plein de jeux de sprint, hein, on les fait souvent quand on est plus jeune. À vos marques, prêt, on fait ça, mais le coach, l'exercice, c'est partir que au son de ma voix. Mais des fois, en fait, ça, c'est le corps qui réagit et qui a envie de partir. À vos marques, prêt, libellule. Bah, libellule, ça fait partir.
We hold our breath once more.
Il faut aussi travailler le temps. Le temps du départ. Quand je dis le temps du départ, c'est que tous les juges n'ont pas les mêmes temps. Souvent, un entraîneur en chambre d'appel, il te dira « Fais attention, le juge depuis trois départs avant, il est très rapide. Fais attention, il est très lent. » Donc, c'est vraiment composé avec l'imprévisible. C'est ça, le départ du sprint. Stella Kakpo, sprinteuse olympique en équipe de France d'athlétisme depuis une quinzaine d'années. J'ai 29 ans et je suis triple championne de France sur 60 mètres, 100 mètres et 200 mètres. Amsterdam, c'était une qualification olympique. Tu sors des blocs et tu fais ce que tu sais faire. Voilà, jaillis. Jaillis des blocs, tu sais le faire, tu l'as déjà fait des millions de fois. Ça fait partie quand même de tes qualités d'être explosif. Mais à aucun moment, je me dis que je ferai un faux départ ou à aucun moment, j'ai l'impression de sortir de ma course.
Dans ces cas-là, on reçoit dans les oreilles un petit bip qui veut donc dire que le starter devra automatiquement tirer un coup de feu pour pouvoir rappeler tous les athlètes.
Pour moi, quand la course, on rappelle, je me dis, bon, il y a un problème technique, quoi. Et je vois un juge prendre un carton rouge dans sa main. Donc, carton rouge, il n'y a pas de deuxième chance. Hein. Carton rouge, c'est élimination directe, c'est pas un carton vert. Il passe le couloir 1, il passe le couloir 2, il passe le couloir 3. Et il ralentit vers mon couloir et il se place en face de moi pour me tendre, du coup, ce carton rouge. Et là, je comprends pas. Je vois que la caméra, par contre, se focalise sur moi. Mais pourquoi elle est sur moi, la caméra? J'ai jamais fait de faux départ. J'étais sûre de moi. Forcément, je m'effondre. Donc, mes mains sur mon visage. Et je vois mon rêve olympique partir en fumée parce que je sais très bien que c'est la dernière chance de qualification. Et donc, en fait, dans ma tête, ça fait qu'un tour. Je me dis, 4 ans de préparation, je suis prête. Je sors du championnat de France où je gagne en 11-17 avec du vent négatif. Il y a 2 centièmes à aller chercher. Le pic de forme est fait pour que je sois prête pour ces championnats-là. Je m'effondre directement. Il y a quelques secondes où je ne comprends pas. Je me dis, mais est-ce que j'ai le temps de contester, pas contester? Et puis non. On est seul et on est seul pendant un bon moment. C'est quoi perdre, en fait? On va beaucoup plus perdre dans notre carrière que gagner, c'est sûr, c'est important de le dire. Je me suis remise en question et je me suis dit, attends, ok, t'as perdu quoi aujourd'hui? Parce que quand tu rentres à la maison et que t'es en dépression pendant une semaine, qu'est-ce que t'as perdu? Pose-toi les bonnes questions.
Au départ, il ne se passe pas rien. Il ne se passe pas rien. Bon motif de refus de compétition. C'est-à-dire, j'ai raté mon départ. Est-ce que je suis nul pour autant? Non.
Maintenant, comment je le regarde, ce faux départ, avec de l'amertume quand même. La course n'a pas eu lieu. J'ai pas couru. Ça se trouve, j'aurais pas été au bout. Ça se trouve, plein de choses. J'ai pas couru. Peut-être qu'il y avait une raison pour laquelle je ne devais pas courir. C'est un non-événement. Le faux départ, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc on ne peut pas dire « j'aurais tout cassé, j'aurais pas tout cassé, je me serais blessé, je me serais pas... » On ne sait pas.
Donc Gilbert Avanzini, 30 ans de ma vie, a accompagné des problèmes de performance. Je suis un agent de performance. Le faux départ, c'est un accident ou un demi-accident qui évite la confrontation. Vous avez tout l'entourage, tous les médias qui vont dire « Oh là là là, si tu avais réussi ton départ, mais tu aurais réussi une course idéale, tu aurais pu battre machin qui a gagné, qui a été champion olympique. » Et comme ça, on est encore les champions imaginaires, alors même qu'on ne s'est pas engagé dans la compétition. C'est un bon système de défense qu'il faut déconstruire.
Mais c'est pas possible !
Eh oui.
Le roi, destitué avant même de courir, Usain Bolt, la France suprême. Même au plus grand, ça peut arriver.
Au niveau des sensations, moi j'éteins tout. Mon corps est en tension. La seule chose que je regarde, c'est la ligne. Le cerveau, il change de mode. Il est en mode prêt à bondir. Donc du coup, tout se coupe. On pense pas vraiment à grand chose, hein. Je suis Cédric Lavanne, j'ai 43 ans et j'ai eu une vingtaine de sélections d'équipe de France sur le 110 mètres haies. C'était au meeting de Bercy, en salle. Il n'y avait pas un bruit. On l'entend près, donc du coup on se met dans les blocs et il y avait une armada de photographes sur les côtés. Et à ce moment-là, un photographe appuie sur le bouton « prendre une photo », tout le monde part. On est tellement à l'affût du coup de feu que n'importe quel bruit peut nous faire partir. On doit être immobile, même le fait de, même sans partir, même de bouger dans les starts, c'est considéré comme un faux départ.
Et ben voilà. John Drummond qui va vérifier à la cellule.
I did not move.
I did not move,
je n'ai pas bougé. Il dit que ce n'est pas possible.
Il dit que c'est pas possible qu'il n'a pas bougé.
La règle, elle remonte au début des années 60, la règle des 100 millièmes de seconde. Et avant, c'était l'œil du starter qui faisait foi.
Qu'est-ce qu'il fait?
Moi, je pense qu'il est furieux. Je crois que lui-même, maintenant, ne s'appartient plus. Et je crois qu'il passe par des moments d'exaltation,
des moments
où il veut rester, partir, des moments où il se révolte. Et je crois que lui-même, aujourd'hui, est dépassé par ce qu'il veut.
Michel Herron, docteur en philosophie, entraîneur et animateur d'athlétisme à Lausanne. Dès le début des années 60, on s'est mis à construire des installations automatiques de détection de faux départ. Des tests ont été faits sur près ou avec près de 1000 athlètes. Et il s'est avéré que le temps de réaction de l'athlète n'est jamais, ou n'était à l'époque jamais, de moins de 120 millièmes de seconde. Et si c'est avant, bah, ça veut dire qu'il a anticipé le signal de départ. No. En vue des JO de Munich, en 1972, la Fédération mondiale d'athlétisme a fixé la règle à 100 millièmes en imaginant qu'il pourrait y avoir dans le futur des sprinters tout à fait extraordinaires qui sont capables de réagir plus vite que les 120 millièmes des athlètes testés. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'il existe effectivement des athlètes qui sont capables de réagir plus vite que ces 100 millièmes qui sont une valeur, à vrai dire, arbitraire. Ce qui est terrible pour eux, c'est qu'au lieu de ne pas anticiper le départ, ils doivent ralentir leur processus de départ pour ne pas faire de faux départ. Alors évidemment, c'est une immense minorité, mais c'est comme des athlètes qui existent, c'est intéressant.
Le mal est fait, c'est-à-dire que cette micro-propulsion que j'ai créée avec les jambes, ça m'a amené dans une zone de déséquilibre et je ne peux que tomber à l'eau à ce moment-là. C'était à Kazan en 2015, donc c'était pour les championnats du monde de natation et pour les séries du 200 mètres nage libre, en fait, je suis parti avant le top départ. Mais pas qu'un peu, en fait. Donc, je me suis retrouvé seul dans l'eau avec tous les autres concurrents, encore sur le starting block. Je suis Clément Mignon, j'ai 30 ans, je suis un ancien nageur. J'ai été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, champion du monde et également vice-champion olympique à Rio en 2016. Il y avait un brouhaha de fond continu. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Peut-être que j'étais focus sur quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y avait le bruit de trop, mauvais moment. Le pied de devant, en fait, il y a les orteils qui sont accrochés sur le bord du plot. On est un petit peu comme un ressort. Il suffit de se déplier pour se propulser, pour initier le plongeon. Quand, pour moi, c'est le signal du départ, qui au final n'était que le havomark, bah, en fait, c'est tout mon corps qui se contracte, et notamment, j'ai ce souvenir d'initier en fait, ce départ au niveau de la cuisse. Et en fait, dans la même fraction de seconde, je comprends que c'était que le havomark, et du coin de l'œil, en fait, je vois que personne d'autre n'a bougé à part moi, et sauf que ça me propulse juste assez pour faire basculer mon point d'équilibre. Et je tombe à l'eau tout seul au milieu du public, au milieu des autres concurrents qui sont encore sur le starting block. Encore avant même de monter à la surface, je mets les mains sur la tête en espérant que peut-être ça va m'apporter la réponse à qu'est-ce qui est en train de se passer, mais pas du tout. Donc là, au bout de quelques secondes qui paraissent une éternité, je remonte à la surface et c'est un silence de mort dans la piscine. Did not start, c'est ce qui est marqué sur le panneau d'affichage en fait. Là, t'as une sorte de sentiment de colère avec toi-même et de honte. J'avais déjà enlevé mon bonnet. Je reste de longues secondes sur le bord du bassin. Et je me lève et je pars. Je file aussi petit que j'essaie de me faire. C'est Camille Lacour qui est venue me voir. Et il m'a juste pris dans ses bras. Et là, je m'en souviens, j'ai fondu en larmes. Il y avait beaucoup de choses en fait qui se passaient déjà dans ma tête. L'ascenseur émotionnel, la veille je suis champion du monde avec le relais 400 mètres nage libre, aujourd'hui je suis disqualifié, j'ai l'impression d'être le pire nageur au monde, d'avoir jamais rien réussi dans ma vie, donc ça te remet un peu en doute tous les schémas qui étaient à la base très solides que tu avais dans la tête. Pendant de longues minutes, j'ai été déphasé par rapport à la réalité quoi.
Et ce que fait le sportif, c'est se plonger dans son intériorité pour découvrir son bon moment. Son bon moment, c'est quand c'est plus un être humain qui objective les choses, mais où il est les forces qui le traversent.
Sanchez scored 91.20, giving him a total more than 7 points higher than Budaya's.
Le but d'un plongeon excellent, c'est de ne pas avoir vu le plongeur plonger. Donc le plongeur, il doit faire le trou, comme on dit. Arriver dans l'eau sans aucune éclaboussure. Pour le public, c'est impressionnant, ça fait un bruit très sec, très beau. Comme si on avait été aspiré par un petit trou qui fait que on disparaît sous l'eau. Pour moi, un faux départ, c'est un échec. Parce que chez nous, le faux départ enlève des points à la note finale. C'est un sport qui est noté. Ben, moi, ma spécialité, déjà, c'était le 10 mètres. Donc, il y a tout à gravir ces répétitions mentales du plongeon en bas des marches. C'est ce que je faisais souvent. Donc on monte les marches par palier. On peut s'arrêter aux 5 mètres, on peut s'arrêter aux 7 mètres 50. On monte surtout pas aux 10 mètres pour pas perturber la plongeuse précédente. Et dans ces moments d'attente, tout se fait mentalement, quoi. On fait le vide, on respire, on est dans ce que j'appelle le flow. C'est vraiment un état de concentration extrême où finalement ça s'apparente un peu à être dans sa bulle. On entend, inévitablement, mais c'est comme si on était enfermé dans une bulle vitrée. Donc on entend en sourdine. Et ce mélange de réussite, de confiance, fait parvenir à une harmonie, en fait, corps et âme, je dirais. Un genre de nuage idéal où il ne peut rien nous arriver. On va automatiquement réussir parce que, voilà, on est intouchable, quoi. Quand je suis en équilibre, ben comme je pose mes deux mains sur la plateforme, je crois même que j'ai un ou deux ongles qui doivent être dans le vide, enfin qui sont à l'accroche. La vision, elle est sur l'eau. Ce jour-là, je n'ai pas dû lancer assez fort ma première jambe. Donc j'ai essayé de rattraper par un déséquilibre arrière le manque de force au départ. Donc j'ai dû forcer comme une malade pour essayer de tenir. Et finalement, non. Bah, je suis retombée du mauvais côté, quoi. Je suis Julie Dano, j'ai 48 ans. Je suis une ancienne athlète de haut niveau en plongeon acrobatique. Mon plongeon raté, mon équilibre manqué, c'était aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, à la plateforme de 10 mètres. C'est le souvenir le plus terrible, en fait, de ma carrière, je pense. J'étais assez jeune, première expérience olympique, donc beaucoup de pression. Et je suis retombée sur la plateforme, donc j'ai raté mon équilibre, j'ai raté mon départ.
Oui, je crois que c'est Willem.
Ouais, c'est fini pour Willem. Ouais.
Ah, il a tout de suite mis les mains sur la tête. Et oui, et la caméra.
C'est la volonté de bien faire qui provoque la catastrophe.
Avec le recul, je me dis, mais en série, en fait, c'est les quatre premiers qui prennent. T'avais largement le temps de faire ta course.
Le rêve qui s'écroule en moins d'une seconde.
Donc ce jour-là, je suis dans les starting blocks, il pleuvait un peu, je fais mon passage d'échauffement, je suis prêt. J'arrive en fait sur la ligne de départ, j'entends en fait un petit bruit, je pense que c'était le coup de pistolet. C'est un son qui est un peu genre une roue qui passe dans une flaque d'eau, ou voilà, j'arrive pas vraiment à savoir, comme si c'est quelque chose qu'on déchirait, mais en fait voilà, du coup je pars. Sauf que je pars un peu trop tôt et du coup pas le bon moment, donc rappel à l'ordre de l'officiel adjoint.
Pauvre Willem, pauvre Willem.
Donc je marche.
Quelle détresse.
Je me dis, j'espère que c'est pas moi, j'espère que c'est pas moi. Je vois l'officiel qui arrive avec le carton rouge, qui est signification d'élimination.
Vous vous rendez compte, c'est toute une saison détruite sur moins d'une seconde.
Je pleure, je sais plus où mettre, etc. Vraiment la tristesse qui m'envahit.
Et en plus, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, ce qui est encore plus... Regardez, il n'y a pas de dérivatif.
Son regard...
Donc je passe derrière tout le monde.
Il explique tout, là, il s'en veut terriblement. Aïe, aïe, aïe. Puis là,
en fait, je longe la ligne droite où il y a toutes les haies. Je ne sais pas si je m'arrête, si je continue. Et donc il y a le public en fait, qui applaudit. Du coup, je vois aussi mes parents qui sont dans les gradins parce qu'ils ont fait le déplacement en fait, de la Guadeloupe.
Aïe, aïe. Alors, on a beau dire qu'on apprend ce genre de choses aussi, mais c'est d'une cruauté, Eric Emmanuel, ce genre d'image à chaque fois.
On était arrivé en 2016, lors des Jeux Olympiques. C'était les séries du 110 mètres haies. Je m'appelle Bélocien Willem, j'ai 28 ans. Je suis athlète du 110 mètres haies et je suis champion d'Europe en salle du 60 mètres haies. Ma coach qui m'a dit, en fait, te propose de travailler avec une psychologue pour en parler, pour travailler sur ce point noir, on va dire. C'est exactement elle qui m'a un peu permis d'en parler. Je pensais avoir digéré la chose. ça me hantait en fait quand même. J'avais un gros poids là-dessus. Et c'est ça qui a entraîné aussi bien la perte de poids et j'irai peut-être les blessures par la suite.
C'est dur l'échec. Un sportif qui réussit pas, c'est un sportif qui meurt. C'est une mort symbolique. Il y en a qui sont pas prêts à mourir, pas du tout, quoi. Et donc, ils vont construire des registres extrêmement complexes pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Éviter absolument de se retrouver dans cette situation-là. Pour se préserver, parce qu'il veut pas prendre le risque de perdre. Et c'est pas une fatalité. L'état préparatoire, la maturité de la tête dans son dispositif, l'acceptation du risque de perdre n'était pas forcément à maturité pour s'engager pleinement dans une compétition, quoi.
Moi, je connais pas d'athlète qui a eu un échec, qui a lancé ses pointes par terre, a dit maintenant c'est fini. C'est quand même un stimulant, parce que t'as pas envie de finir sur un échec. C'est ça qui est beau dans le sport, et c'est ce qu'il faudrait transmettre. C'est ce que peut un corps, ce que peut un être humain. Dans notre société, le corps, l'être humain peut de moins en moins, et le corps peut bientôt plus rien du tout. Hein. Alors que dans le sport, toi, c'est exactement le contraire. C'est que tu cherches en permanence ce que peut le corps. T'es aux aguets de ce que peut ton corps. Le temps se rétrécit et s'allonge, mais c'est vrai qu'il y a une intensité de chaque moment qui est immense.
Arte Radio.com